Aujourd'hui, à Rencontre, les Aztèques et les sacrifices humains avec Christian Duverger. Christian Duverger a mené au Mexique de nombreux travaux anthropologiques. Il a publié aux éditions du Seuil un ouvrage étonnant sur la conversion des Indiens de Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire du Mexique, au XVIe siècle. C'est un ouvrage fascinant qui renverse bien des préjugés au sujet de cette aventure extraordinaire qui accompagna la conquête du Mexique par les Espagnols. Christian Duverger est interviewé par Marcel Brisebois.
Christian Duverger, vous êtes philosophe de formation. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l'ethnologie ?
Je crois que j'avais le souhait de rencontrer des pensées qui n'étaient pas des pensées occidentales. Donc j'aurais pu effectivement me retrouver ethnologue chez les Papous. Il se trouve que j'ai choisi l'Amérique. Et j'ai choisi intentionnellement le monde mexicain, et notamment le monde aztèque, car on disposait d'écrits. On peut procéder à des études de type ethnographique en observant des visus, aujourd'hui même encore, les Indiens qui survivent ou qui sont dans les montagnes.
C'est ce qu'a pu faire notamment Lévi-Strauss, par exemple.
Incontestablement. Donc on peut procéder à des analyses de type ethnologique, proprement dite. Mais en plus, on a sur le moment de la conquête, sur le moment du contact, un certain nombre de documents écrits qui nous donnent énormément d'informations sur le passé préhispanique. Donc, choisir le Mexique, c'est choisir également un terrain sur lequel on peut combiner l'ethnologie et l'histoire.
Documents écrits que nous devons à qui ?
Ces documents écrits, nous les devons essentiellement aux religieux qui ont procédé à l'évangélisation du Mexique au XVIe siècle, mais nous les devons également à un certain nombre d'autres personnages, des conquistadors. Cortés a écrit des lettres. L'un des compagnons de Cortés, Diaz del Castillo, a écrit également un ouvrage, une chronique. Il y a également des fonctionnaires. Nous avons une chronique d'un certain Zurita, qui est auditeur, c'est-à-dire membre du gouvernement de la Nouvelle-Espagne, qui laisse une chronique, etc., etc. Il y a également des indigènes qui, un peu plus tard, évidemment, à la fin du XVIe siècle, vont se mettre à écrire l'histoire de leurs ancêtres.
Mais si on fait exception de ces écrits indigènes, c'est quand même une histoire vue du point de vue des vainqueurs et non pas du point de vue des vaincus. Est-ce que c'est pas un peu biaisé ?
C'est une histoire vue, oui, effectivement, par les vainqueurs, incontestablement. Mais on en tient compte. De toute façon, il n'y a pas que cette histoire-là. Il y a également l'archéologie qui nous donne un certain nombre d'informations sur les conceptions, sur les croyances des anciens Mexicains.
Vous vous êtes intéressé particulièrement donc aux Aztèques et non pas aux autres peuples qui habitaient le Mexique. Pourquoi les Aztèques ?
Toujours pour cette raison. Parce que les Aztèques sont ceux que les Espagnols vont rencontrer en 1519-1521 au moment de la rencontre, au moment de la conquête du Mexique. C'est une société brillante, c'est une société qui domine le Mexique central, qui est vivante, qui va être, il faut le dire, assassinée par les conquérants espagnols. Mais avant de procéder à cette destruction, il va y avoir un certain nombre d'observations faites et nous allons avoir un témoignage de la part du monde occidental sur ces civilisations qui vont être abattues.
Les Aztèques vivent, me dites-vous, au centre du Mexique, alors, c'est-à-dire autour de Mexico.
Les Aztèques, c'est ça. C'est ce on pourrait dire la civilisation Mexica aussi. Ce sont les gens qui habitent Mexico, autour de Mexico, au début du XVIe siècle. Alors que les Mayas, par exemple, n'existent pratiquement plus au moment de la conquête. Il y a certes des habitants en terre Maya, mais ce sont déjà des descendants des grands Mayas de l'époque classique dont l'apogée se situe au 7e, 8e siècle de notre ère. Alors que les Aztèques sont vivants et sont en plein épanouissement au moment de la conquête. Donc c'est en plus ce destin tragique de cette civilisation qui a le contrôle sur un espace immense, puisque c'est un espace qui couvre la totalité du Mexique central d'un océan à l'autre. C'est un destin tragique de voir ces hommes parvenus au fait d'une domination et d'une culture extraordinaire brutalement interrompus dans leur destin.
Dans l'ouvrage que vous avez écrit sur l'origine des Aztèques, vous nous apprenez que les Aztèques n'ont pas toujours été là où vous les avez trouvés, trouvent les Espagnols au moment de la conquête.
Les Aztèques sont des nouveaux venus, et on pourrait même dire des nouveaux riches, si vous voulez. Ce sont des gens qui ont un passé de nomades et qui se sont peu à peu sédentarisés.
Un long passé de nomades.
Certainement, très très long. Évidemment, l'histoire se dérobe un peu sous nos pas, et notre enquête ne remonte pas extrêmement loin. Enfin, je dis notre, il est difficile de suivre pas à pas la trace des Aztèques dans leur migration. Ils viennent du nord, c'est une certitude, mais il est difficile de dater cette migration. Mais il est certain que le passé aztèque est un passé de nomades. Et c'est ça qui rend quand même la chose assez attachante, parce que nous avons, au fond, une strate d'histoire qui est un peu celle de l'humanité. C'est-à-dire une humanité de population assez fragmentée, éclatée, de nomades, migrants, perpétuellement soumis aux pressions du milieu, l'aléa de la chasse, la cueillette, une grande sensibilité aux problèmes des saisons, de l'eau qui vient, qui va. Il faut donc suivre les troupeaux, suivre les régimes de fructification d'un certain nombre de baies sauvages ou de fruits qui nécessaires à la subsistance. Donc nous avons affaire à ce genre d'humanité qui peu à peu arrive à maîtriser non seulement le sol, mais également tous ces phénomènes climatiques. Cette humanité apprend à les connaître, à les contrôler, à les maîtriser. Et c'est l'histoire, au fond, de la sédentarisation qui s'accompagne de l'histoire de la domestication et de l'histoire de la maîtrise de l'agriculture. Mais ça pose un problème particulier, car les Aztèques représentent la dernière vague des migrants au Mexique. Alors que, depuis déjà trois millénaires, au moins, il y a dans le Mexique central, des gens qui sont déjà sédentaires, c'est-à-dire des gens qui ont déjà connu cette évolution, mais 3000 ans plus tôt. Ce qui fait que lorsque les Aztèques arrivent migrants, avec le désir de se sédentariser, dans cette région qui est déjà occupée par des sédentaires, il y a un problème. Il y a un problème de conflit pour le contrôle des terres. Donc les Aztèques procéderont par la force. Comme la plupart de ces sociétés de nomades, ce sont aussi des sociétés militaristes, des sociétés guerrières, et les Aztèques s'imposeront par la force. Ils s'imposent à une date relativement proche de nous, puisque c'est autour du XIIe, XIIIe siècle qu'ils vont réussir leur implantation sur le plateau central.
Nous reviendrons plus tard, si vous voulez, sur ces manifestations de force, lorsque nous parlerons de votre autre ouvrage, La fleur létale. Mais si pour le moment vous vouliez bien, nous en resterons encore à cette errance qui est quand même, dites-vous, extrêmement importante dans la constitution de la pensée, de la culture des Aztèques, et qui même va nourrir des mythes chez les Aztèques.
Ça, c'est une chose très intéressante. Et comme les Aztèques sont des mutants culturels, en quelque sorte, comme ils passent du stade de nomade au stade de sédentaire complet, d'ailleurs, sédentaire complet, et même non seulement des sédentaires de village, mais des sédentaires urbains. Ils maîtrisent l'urbanisme. C'est une incidente, mais Mexico, la ville de Mexico, qui est la capitale aztèque au moment de la conquête espagnole, c'est-à-dire au début du XVIe siècle, représente au bas mot 250 000 habitants pour l'île de Mexico, et probablement 500 à 700 000 habitants pour l'agglomération avec les rives du lac.
Donc si on considère même les villes du monde occidental, c'était une très grande ville.
Ah, c'est certainement. Si on fait la comparaison avec les villes du monde occidental à la même époque, je vous donne un chiffre. Séville, qui est la plus grande ville d'Occident, la plus grande ville à l'époque de la Renaissance, au début du XVIe siècle, Séville compte entre 50 000, peut-être 60 000 habitants.
Alors,
nous sommes dans un rapport de 1 à 10 par rapport à Mexico. Donc c'est un niveau d'urbanisme que ne connaît pas encore l'Ancien Monde.
Donc une ville extrêmement organisée, avec
extrêmement
tous les problèmes
organisée.
Que ça peut représenter.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les Aztèques passer en quelques siècles, peut-être moins. C'est peut-être pas aussi rapide qu'on le dit, hein. Mais l'histoire nous présente ça comme quelque chose de très rapide, mais il est certain que c'est assez rapide. Mais nous les voyons passer d'un stade de tribus que l'on appelle Chichimec, hein, dans langue nahuatl, qui est ce stade de la prédation nomade, aléatoire, au stade de contrôle de la sédentarité totale urbaine. Et cela en 3 siècles, 4 siècles, grand maximum 5 siècles. Et alors ce qui est intéressant, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les Aztèques continuent à penser comme des nomades alors qu'ils vivent comme des sédentaires et comme des gens urbanisés. Probablement parce qu'ils sont les héritiers d'une tradition nomade qui a des millénaires. Donc leur culture est effectivement une culture de nomades et ils pensent le monde incontestablement en termes de nomades. Et ça effectivement a donné naissance à des mythes, à des conceptions qui sont des conceptions d'une façon générale angoissées à l'égard de la précarité cosmique. Et cette pensée aztèque, elle est, je crois, nourrie par le passé de migrants de cette tribu.
Et même lorsqu'ils s'installent, ils ne conçoivent pas que cette installation puisse être définitive. Ils pensent qu'ils peuvent être appelés à aller ailleurs, si j'ai bien compris.
Ah, quand ils s'installent à Mexico, ils pensent qu'ils s'arrêtent.
Ah, c'est fini, c'est définitif.
Ah oui, oui. C'est considéré un petit peu comme une terre promise, comme la fin de l'errance. Et Mexico est pour eux leur point d'ancrage.
Mais est-ce qu'ils n'attendent pas autre chose, quand même, dans leur mythologie?
Ils savent de toute façon que tout peut être remis en question. Le grand principe de la mythologie aztèque, mais d'ailleurs en ce sens-là, les Aztèques ne sont pas très différents de leurs voisins. D'une façon générale, beaucoup, beaucoup de populations amérindiennes pensent de la même façon. La création n'est jamais donnée une fois pour toutes. La création est toujours remise en chantier, elle est toujours à remettre en chantier, elle est toujours précaire. Ce qui fait que les mythes donnent toujours le récit, non pas d'une création, mais de plusieurs, d'une succession de créations. Alors chez les Aztèques, ça a la forme la plus connue du mythe des quatre soleils, ou plus exactement du mythe des cinq soleils, puisqu'on nous décrit une succession de quatre ères, en fait, cosmogoniques, qui chaque fois finissent dans des cataclysmes, et l'époque aztèque est le cinquième soleil. Mais ce cinquième soleil est lui aussi soumis à la règle de la précarité. Et il est menacé par l'épuisement des énergies. Donc il est lui-même soumis à cet aléa qui a présidé à la destruction des autres ères, des autres époques. Donc effectivement, les Aztèques, même lorsqu'ils sont installés à Mexico, pouvaient penser, peut-être pas qu'ils auraient à déménager, mais probablement que le monde finirait. Mmh. Ils en avaient d'ailleurs une peur physique.
Et ils sont convaincus donc qu'il y a, comme on dit aujourd'hui, une entropie, qu'il y a une perte d'énergie.
Oui.
Et ils ont trouvé une solution quand même pour essayer de modérer cette perte d'énergie.
Disons que c'est leur solution. Je ne sais pas si c'est une solution au problème.
Enfin, c'est la leur.
Alors c'est évidemment une solution barbare puisque c'est le sacrifice humain. Mmh. L'idée des Aztèques est effectivement la suivante, si on peut résumer. J'extrais évidemment ce qui apparaît dans le domaine des mythes, dans le domaine des croyances, mais aussi dans le domaine des pratiques quotidiennes. L'idée est qu'il y a d'abord en circulation une énergie qui est stock. Et cette énergie, elle est connue sous le nom de soleil, d'ailleurs, ils appellent ça le soleil, Tonatiu. Et comme tous les stocks tendent à dépérir. Donc, à la différence des sources qui s'entretiennent, ce soleil est un soleil en décélération progressive, un soleil menacé, vous le disiez tout à l'heure, un soleil anthropique. Bon. En revanche, il y a quelque chose d'assez particulier, c'est la vie, et la vie est créatrice d'énergie, et notamment la vie humaine. Donc tout être humain est perçu comme étant détenteur, aujourd'hui nous dirions une âme au fond, une sorte de force intérieure, d'énergie intérieure qui est individualisée. Mais ce qui est certain dans les croyances aztèques, c'est que cette énergie est sans commune mesure avec les besoins de la vie humaine. Ce qui fait que si l'on tue quelqu'un, si l'on le sacrifie, l'idée est que ce meurtre, perpétré dans des conditions cérémonielles et rituelles, évidemment, il ne s'agit pas de quelque chose de pratiqué à la sauvette dans l'arrière-cour d'un temple. Hein. C'est quelque chose qui était tout à fait officiel et tout à fait ritualisé, évidemment, canalisé.
Il s'agit d'une liturgie.
Il s'agit d'une liturgie. L'idée était qu'au cours de cette liturgie barbare et meurtrière, pouvait se capturer l'énergie individuelle et l'énergie du sacrifié était en quelque sorte recyclée dans le grand flux des énergies qui servent au monde des vivants. C'est une sorte d'alchimie qui nous est difficilement compréhensible, mais c'est une sorte d'alchimie où l'on fait de la vie à partir de la mort.
Qui étaient les victimes ?
Alors, oui, ça, on le sait très bien. Les victimes sont essentiellement des captifs de guerre, essentiellement à 90-95%, des captifs de guerre qui sont ramenés de la périphérie au centre. Ils sont, les guerriers aztèques font des campagnes extérieures. Évidemment, ça sert aussi à étendre le domaine d'influence aztèque et le domaine de l'Empire. Mais sur le terrain de bataille, on fait des captifs, on ne tue pas. Hein. On s'attache à ne pas tuer les individus sur le champ de bataille. On les ramène à Mexico, où ils sont confiés aux mains des prêtres, et ce sont les prêtres qui vont les sacrifier cérémoniellement.
Donc à la fois une société guerrière, oui, batailleuse, mais par ailleurs une société qui remet à plus tard la mort des victimes.
Oui, parce que c'est aussi une société religieuse. Mmh. Et c'est à la fois une société guerrière et une société religieuse, et le sacrifice humain est, disons, l'acte social qui va permettre de faire cohabiter les deux castes qui détiennent le pouvoir en se partageant en quelque sorte équitablement les rôles. Les guerriers font les captifs et ces captifs vont servir de victimes humaines et ce sont les prêtres qui vont administrer la mort sacrée.
Au profit de l'ensemble de la communauté.
Au profit de l'ensemble de la communauté, c'est certain.
Est-ce qu'il y avait des victimes volontaires ? Est-ce que par exemple si on manquait de captifs, est-ce que quelqu'un pouvait s'offrir volontairement ou si on pouvait désigner un aztèque, un de la tribu pour...
Non, on n'en a pas d'exemple et en tout cas ça aurait été véritablement la suicidaire.
Donc on ne peut pas penser que cette pratique a été une pratique qui a miné la société aztèque,
non,
n'est-ce pas, qui a été, non, pas du tout.
Non, moi je n'ai pas ce sentiment.
Au contraire, elle a une place importante dans l'économie.
En revanche, même si ce n'est pas une automutilation, il est certain que le processus ne peut reposer que sur une expansion indéfinie. Et en ce sens, on pourrait dire qu'il y avait une menace. C'est-à-dire que pour avoir des captifs, il faut faire des conquêtes de plus en plus loin. Alors on voit très bien, quand on étudie l'histoire des Aztèques, ce que je fais un petit peu dans l'origine des Aztèques, on voit bien qu'au départ, il y a une petite ville, et puis qu'elle devient progressivement une grande ville, et puis que cette ville va étendre son pouvoir sur les rives du lac de Mexico, qui est un immense lac qui occupe toute la cuvette, au creux de ces volcans immenses. Et puis on passe les volcans, et puis on va déborder dans les terres chaudes, Cuernavaca, etc., et progressivement, on touche aux deux océans, et etc., etc. On va jusqu'en terre maya, on va jusqu'en Amérique centrale. Donc, progressivement, le coût de ces expéditions devient très important. Il faut des années.
Car il n'assimile pas.
Il faut des années pour faire ces conquêtes. D'abord, matériellement. Et ensuite, il faut intégrer dans cet empire aztèque un monde de plus en plus hétérogène, de plus en plus disparate. Et là, ça pose un problème. Donc, à terme, il y avait ce coût extraordinairement élevé de la conquête extérieure et en ce sens, le coût du sacrifice était, au moment de l'arrivée des Espagnols, à la limite du tolérable. D'ailleurs, il y avait eu une parade qui avait été d'intégrer à l'intérieur même de l'Empire une sorte de zone de dissidence soigneusement entretenue. C'était la fameuse rivalité entre Mexico et Tlaxcala. Et entre ces deux principautés était organisé ce qui a été appelé la guerre fleurie, c'est-à-dire ce jeu létal, si vous voulez, qui était en réalité une campagne assez ritualisée, une campagne de guerre, qui n'avait d'autre objectif que de faire des captifs pour nourrir les hôtels, aussi bien les hôtels de Mexico que des partenaires de Tlaxcala.
Est-ce qu'on est, avec le sacrifice humain, au centre de la culture aztèque ?
On ne peut pas réduire, évidemment, la culture aztèque à la pratique du sacrifice humain. Ça serait très réducteur. Mais il est certain que c'est une pratique qui est courante, je ne dis pas qu'elle est quotidienne, mais enfin elle est courante et elle structure quand même assez fortement à la fois la pratique quotidienne, la vie sociale et la vie religieuse.
Comment caractériseriez-vous la culture aztèque ? Qu'est-ce qui la définit ?
La culture, alors d'un point de vue social, je crois que c'est l'ouverture et l'expansion. C'est une société complètement ouverte qui se crée sous les yeux de l'historien, sous les yeux de l'observateur, en l'espace de quelques siècles, comme je l'ai dit. Et l'on voit que tous les postes sont à pourvoir et que perpétuellement, il y a une dynamique interne. Donc en ce sens-là, c'est assez satisfaisant de voir que c'est une société qui se donne les moyens de son expansion. Elle se complexifie, on voit qu'il y a chaque jour des tâches nouvelles qui se créent, et donc il y a une dynamique intérieure. C'est une société extrêmement dynamique. Ça, c'est d'un point de vue social. Et d'un point de vue religieux, je crois qu'il faut insister sur cette obsession de la dépense, cette hantise de la dépense et cette obsession de la précarité cosmique. Et ça, c'est quelque chose qui vient certainement de l'époque migrante, où les Aztèques sont encore migrants. Il y a une sorte d'insécurité perpétuelle qui est vécue à un niveau cosmique et cosmologique. C'est pas l'insécurité du demain, c'est vraiment une insécurité globale du monde, une sorte d'angoisse perpétuelle, et ça contribue à structurer tous les comportements. Alors j'en donne quelques exemples dans mes livres, dans La fleur létale que vous citiez tout à l'heure. Il y a par exemple toute une économie domestique où l'on s'aperçoit que même la morale induit des comportements qui sont économiques. La morale consiste à dire « mon fils, ne cours pas dans la rue, ne parle pas trop fort parce que ça va créer un rejet chez l'autre, tu vas lui faire mal aux oreilles, ne parle pas non plus trop doucement parce que tu vas susciter un effort trop grand de la part de ton interlocuteur, il faut parler bien, comme il faut, convenablement, etc. etc. » Enfin, il y a tout un tas de préceptes moraux. Quand tu commences à manger une tortilla de maïs, qui sont ces galettes de maïs qui sont la base de l'alimentation indigène, ne la casse pas en 1000 morceaux, tu la manges ou tu ne la manges pas, si tu ne la manges pas, tu la partages, etc. Mais pas de gaspillage. Et ça pour tous les gestes, évidemment, pour toutes les pratiques ludiques, pour toutes les pratiques sexuelles, il y a des règles de comportement qui visent à préserver les énergies ambiantes et à essayer de susciter évidemment des énergies nouvelles.
Et du point de vue artistique ?
Alors c'est quelque chose qui peut paraître assez austère. L'art aztèque est quand même d'essence militariste. C'est plutôt du grandiose que quelque chose d'extrêmement fin. Mais c'est quelque chose qui se manifeste. On dirait aujourd'hui que c'est un art un peu idéologique. C'est-à-dire ce qui est manifesté, c'est la toute-puissance des dieux aztèques, qui sont d'une certaine façon des dieux un peu sanglants, ces dieux exigeants qui réclament du sang pour la continuité du monde. Et c'est quelque chose d'un peu austère parce que c'est quand même en filigrane la guerre, l'exigence agricole par exemple, c'est quelque chose qui est très fort, mais qui est vécu comme également de façon angoissée. C'est-à-dire il faut absolument qu'il pleuve pour qu'il y ait des cultures, pour pouvoir nourrir tout ce vaste monde. Donc même la religion des paysans n'est pas une religion douce, n'est pas une religion calme, c'est une religion angoissée. Et ça se ressent, moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens, dans cette production artistique où l'on voit des dieux qui sont des dieux qui tirent la langue, car ce sont des dieux assoiffés, des dieux qui sont ornés de crânes humains, car la mort est omniprésente, des dieux qui sont ornementés avec des couteaux de silex, qui sont les couteaux sacrificiels. Enfin, vous voyez, tout un environnement qui a d'ailleurs souvent été perçu par les Occidentaux par un peu macabre, et qu'il est dans le fond, mais ce n'est pas le macabre au sens premier, c'est un macabre qui renvoie à une sorte d'angoisse vitale, et qui n'est pas, qui est au fond assez estimable en ce sens.
Mais voilà une grande culture, un peuple très fort, et qui se trouve tout à coup face à des Espagnols, qui ont, eux, l'intention d'envahir. Comment ne les ont-ils pas repoussés? Ils en avaient tous les moyens. Comment se fait-il qu'ils ne les ont pas jetés à la mer? Comment se fait-il qu'ils ne s'en sont pas servis, justement, comme victimes sacrificielles?
Ça, c'est une vaste question. Il est difficile d'y répondre. Alors, il y a évidemment un certain nombre de réponses. Par exemple, j'élimine à peu près, certainement, l'idée que les Aztèques ont pris les Espagnols pour des dieux. Même si l'ambiguïté a pu être entretenue quelques jours, elle ne l'a pas été plus de quelques jours, de quelques semaines. C'est-à-dire que les Aztèques se rendent très bien compte qu'ils ont affaire à des hommes, et ils se rendent même compte qu'ils ont affaire à ces Espagnols qui ont détruit les cultures indigènes aux Antilles. Car si l'on donne les dates, 1492 pour Christophe Colomb, 1500 Cuba est déjà colonisé, 1519-1521 la conquête du Mexique. Donc en 20 ans, les informations ont circulé. Donc les Aztèques savent que les Espagnols ont détruit les cultures autochtones aux Antilles. Ils le savent. Et quand les Espagnols arrivent au Mexique, je crois qu'il y a une sorte de défaitisme dans l'air qui joue. Ils savent qu'ils n'ont pas les moyens
de résister.
Et je dirais que c'est beaucoup plus psychologique que matériel, car comme vous le disiez, ils avaient les moyens de tuer les 300 Espagnols qui se sont présentés. Ils sont même, à un moment, beaucoup moins nombreux, car Cortés fait, à partir de 1519, la conquête du Mexique, il marche sur Mexico, il se rend maître de Mexico, au mois de novembre, il est dans Mexico, il est maître de Mexico. Et puis, on vient lui contester sa victoire, et il y a un second contingent d'Espagnols qui débarque à Veracruz. Qu'à cela ne tienne, Cortés, qui tient son empire mexicain, part pour Veracruz, et il laisse à Mexico son lieutenant, Alvarado, avec 50, 60, peut-être 80 Espagnols maximum. Et c'est cette poignée d'Espagnols qui va tenir la ville. Et je vous disais qu'il y avait 200 ou peut-être 300 000 Mexicains à l'époque. Donc ils avaient matériellement la possibilité de tirer 80 flèches, il est évident. Ils ne l'ont pas fait car il y a une sorte d'ascendant précurieux de ces Espagnols qui sont un petit peu sacralisés et les Indiens n'osent pas les toucher. Mais je crois que c'est lié au fait qu'ils savent que leurs jours sont comptés et qu'il n'y a rien à faire. Et ils jouent perdants, si vous voulez.
Christian Duverger, je vous remercie.
Je vous remercie.
Rappelons que Christian Duverger a publié plusieurs ouvrages importants aux éditions du Seuil. La conversion des Indiens de Nouvelle-Espagne. Il y raconte l'étonnante osmose culturelle qui s'est opérée entre le christianisme et la religion des Aztèques. Cet ouvrage, qu'il faut lire, renferme le fameux texte des Colloques des Douze de Bernardino de Sahagún, qui date de 1564. L'origine des Aztèques, peuple originellement nomade et guerrier, qui s'est établi à Mexico, d'où il a exercé un pouvoir culturel très important. La fleur létale, consacrée essentiellement au problème des sacrifices humains chez les Aztèques, c'est un ouvrage capital sur cette question tant discutée. Enfin, on pourra consulter un livre admirable consacré à l'art précolombien du Mexique et du Guatemala, paru chez Payot et préfacé par Jacques Soustel. Orné de plus de 400 planches, on y trouve de superbes chefs-d'œuvre inédits de l'art aztèque qu'on a pu voir au cours de cette émission.